Chapitre 2. Première désillusion et réalisation d'un rêve. La façade de briques était juste à l'alignement de la route. En entrant, il y avait la salle où l'on mangeait et séjournait et dont le papier peint était à moitié décollé. Puis, le cabinet de Charles, une petite pièce avec une table, trois chaises et un fauteuil de bureau. Emma monta dans les chambres. La première n'était pas meublée, mais la seconde, la chambre conjugale, avait un lit d'acajou dans une alcôve à draperie rouge. Les premiers jours, Emma fit des changements dans la maison. Elle fit coller du papier neuf, repeindre l'escalier et faire des bancs dans le jardin. Elle voulut un bassin à jet d'eau. Son mari trouva un boc d'occasion, car elle aimait se promener en voiture. Jusqu'à présent, qu'est-ce que Charles avait eu de bon dans l'existence? Maintenant, il possédait pour la vie une jolie femme qu'il adorait. Quelquefois, il lui donnait sur la joue de gros baisers et elle le repoussait. Avant de se marier, Emma avait cru avoir de l'amour. Mais le bonheur, résultat de cet amour, n'étant pas venu, elle crut qu'elle s'était trompée. Qu'étaient dans la vie les mots de félicité, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beaux dans Paul et Virginie? Elle avait rêvé l'amitié douce de quelques bons petits frères. À 13 ans, son père la mit au couvent où elle se plut en compagnie des bonnes sœurs. Elle fut envahie de langueur mystique. Elle essaya de jeûner, d'accomplir quelques vœux. Pourtant, venant de la campagne, elle n'appréciait pas les aspects calmes, préférant les aspects accidentés. Il y avait une vieille fille qui venait tous les mois pour travailler à la lingerie du couvent. Elle prêtait en cachette quelques romans qu'elle avait toujours avec elle. Ce n'était qu'amour, amant, amante, dame persécutée, trouble du cœur, messieurs braves comme des lions. Avec Walter Scott, Emma s'éprit de choses historiques. Quelques-unes de ses camarades apportaient au couvent des keepsakes, qu'il fallait aussi cacher. Elle frémissait en regardant les gravures. C'étaient de jeunes gens enlacés, mais aussi des portraits de ladies anglaises ou encore des sultans avec des sabres turcs. Les religieuses qui avaient cru en sa vocation s'aperçurent pourtant qu'elle leur échappait. Cet esprit positif qui avait aimé l'Église pour ses fleurs, la musique pour les paroles des romances et la littérature pour ses excitations passionnelles s'insurgeait devant les mystères de la foi. Quand son père la retira du couvent, on ne fut point fâché de la voir partir. Emma fut contente de rentrer au Berthaud, mais elle prit rapidement la campagne en dégoût et regretta son couvent. Quand Charles vint la première fois chez eux, le trouble que la présence de cet homme lui causa avait suffi à lui faire croire qu'elle possédait enfin cette passion merveilleuse. Ainsi, elle ne pouvait s'imaginer à présent que ce calme où elle vivait soit le bonheur qu'elle avait rêvé. Elle songeait quelquefois que c'était là, la lune de miel. Pour en goûter la douceur, il aurait fallu s'en aller vers ces pays aux noms sonores produisant du bonheur. Elle aurait souhaité faire à quelqu'un la confidence de toutes ces choses. Si le regard de Charles était venu à la rencontre de sa pensée, son cœur aurait répondu. Mais elle sentit très vite qu'elle se détachait de lui. La conversation de Charles était plate, sans provoquer d'émotion ni de rêverie. Il n'était attiré par rien, il ne souhaitait rien. Il la croyait heureuse et elle lui en voulait du bonheur qu'elle lui donnait. Emma savait conduire sa maison. Elle aidait Charles dans son travail. Le soir, il rentrait tard, à minuit parfois. Alors la bonne étant couchée, c'était Emma qui le servait. Il racontait ses visites auprès de ses malades et satisfait, mangeait, épluchait son fromage, vidait sa carafe, puis se couchait et ronflait. Il s'habillait avec économie, disant que c'était assez bon pour la campagne, ce que sa mère approuvait. Par contre, Madame Bovary-mère trouvait que sa bru adoptait un genre trop relevé pour leur position de fortune. Un garde-chasse avait donné à Madame une petite levrette d'Italie. Elle la prenait et allait parfois jusqu'à une étrée pour être seule et se répéter « Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée ?» Elle se demandait s'il n'y aurait pas eu un moyen de rencontrer un autre homme. Ils ne pouvaient pas tous ressembler à celui-là. Il aurait pu être beau, gai, attirant, tel qu'étaient sans doute les époux de ses anciennes camarades de couvent. Sa vie était froide et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans tous les coins de son cœur. Pourtant, vers la fin de septembre, elle fut invitée à la Vaubyessard chez le marquis d'Andervilliers que Charles avait soigné. Un mercredi donc, monsieur et madame Bovary partirent dans leur boc. Ils arrivèrent au moment où on allumait les lampions dans le parc. Le marquis s'avança et les introduisit dans le salon. Là, la marquise vint à la rencontre d'Emma et se mit à lui parler amicalement. Emma se sentit enveloppée dans un parfum de fleurs et de fumée. On versa du champagne bien frais, ce qui la fit frissonner. Lorsqu'elle s'apprêta pour le bal, Emma semblait une actrice à ses débuts. Elle mit sa robe la plus élégante. Le pantalon de Charles le serrait sur le ventre. « Ce pantalon est trop serré, il va me gêner pour danser, » dit Charles. « Danser ?» reprit Emma. « Mais tu as perdu la tête, on se moquerait de toi. » Charles se tut et attendit qu'Emma soit habillée. Il la voyait par derrière dans la glace, ses yeux noirs semblaient encore plus noirs. Il vint l'embrasser sur l'épaule. « Laisse-moi, » dit-elle, « tu vas froisser ma robe. » On entendit une ritournelle de violon. Elle descendit l'escalier, se retenant de courir. Les quadrilles avaient commencé. Le cœur d'Emma battit lorsqu'avec son cavalier, elle vint se mettre en ligne et attendit le coup d'archer pour partir. Après le souper, où il y eut toutes sortes de plats exotiques et de vins d'Espagne et du Rhin, Charles dormait à demi, le dos appuyé contre une porte. À 3 heures du matin, un valseur qu'on appelait le vicomte vint inviter Emma à danser, l'assurant qu'il la guiderait et qu'elle s'en tirerait bien. Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite. Ils tournaient, tout tournait autour d'eux, les lampes, les meubles et le parquet. En passant près des portes, le bas de la robe d'Emma frôlait le pantalon du vicomte. Il baissait ses regards vers elle, elle levait les siens vers lui. Haletante, elle s'arrêta. Ils repartirent, elle faillit tomber. Il la reconduisit à sa place et elle mit la main devant ses yeux. Quand elle les rouvrit, le vicomte dansait avec une autre dame. La fête terminée, la musique du bal bourdonnait dans les oreilles d'Emma qui resta éveillée afin de prolonger l'illusion du luxe. Le lendemain, les époux Bovary firent leur politesse au marquis et à la marquise et repartirent pour Tostes. Arrivés chez eux, le dîner n'était pas prêt. Madame s'emporta. Nastasie, la bonne, répondit insolemment et Emma la renvoya. Une jeune fille de 14 ans, Félicité, qui obéissait sans murmure, la remplaça. Emma trouva les journées longues après leur retour, comme le bal lui semblait déjà loin. Elle lisait beaucoup et confondait dans son désir les sensualités du luxe avec les joies du cœur. Le printemps reparut, puis les mois de juillet, d'octobre. Elle attendait un nouveau bal du marquis. Déçue, son cœur resta vide. L'hiver fut froid. Elle laissait tout aller dans son ménage. Elle devenait capricieuse. Elle pâlissait et avait des battements de cœur. Comme elle se plaignait de Tostes continuellement, Charles imagina qu'en s'établissant ailleurs, sa santé s'améliorerait. On avait besoin d'un médecin à Yonville-l'Abbaye. Il écrivit au pharmacien de l'endroit pour avoir quelques informations et déménagea vers le printemps. Quand on partit de Tostes au mois de mars, Madame Bovary était enceinte.